et le billet politique non pas de Frédéric Saïs, qui aujourd'hui a vacances, mais Dominique Pestre. Bonjour Dominique Pestre, vous voulez nous parler donc des Nobel.
Oui, bah, octobre est la saison des prix Nobel, nous l'entendons, nous venons de l'entendre encore un instant. C'est le regretté chimiste et industriel Alfred Nobel, spécialiste d'explosifs, fabricant d'armes, inventeur de la dynamite, qui les finance en 1895. Peut-être l'offrande des prix Nobel à la science est-elle l'hommage que le vice rend à la vertu. En tout cas, elle est reconnaissance de ce que l'industrie et l'armement lui doivent. Le mélange des genres n'a rien d'exceptionnel. Hein. La science pure, comme on dit, n'a jamais vraiment existé, ne serait-ce que parce que les sciences sont du monde et qu'elles procèdent de l'univers politique et social. Galilée travaille à l'arsenal de Venise avant de devenir courtisan à la cour de Médicis. Le baron Chaptal, qui est médecin, chimiste, académicien, est aussi ministre de l'Intérieur. Répétant Yves Lacoste, on dira en fait que les sciences, ça sert peut-être d'abord à faire la guerre et à ouvrir de nouvelles perspectives à l'industrie. L'attribution des prix à des savants renommés n'est pas une nouveauté en 1895 et Alfred Nobel n'est pas le premier à le faire. Les prix sont alors au contraire légion, ils servent à soutenir financièrement l'activité scientifique. Mais quand les prix Nobel sont créés, le monde est en train de changer. Et ce sont les États qui deviennent les principaux entrepreneurs de science. Ils se font trait d'union entre savants et industriels et ils servent la puissance économique et la grandeur militaire des nations. Le meilleur exemple en est, dans ces années, l'Institut physico-technique du Reich, qui est créé en 1887 à Berlin et qui est à l'initiative de trois personnages hautement symboliques, Helmholtz, le scientifique, Siemens, l'industriel, celui dont l'entreprise vient de reprendre le contrôle financier d'Alstom, et bien sûr Bismarck, lui-même, le chancelier du Reich. Aujourd'hui, l'intégration entre science, économie et politique est plus étroite que jamais. Mais elle a changé de nature. Ce sont dorénavant les acteurs économiques et plus les États qui règlent le jeu. Et cela a modifié ce que les sciences regardent, ce qu'on étudie, ce qu'on oublie et la manière dont on travaille. On a par exemple modifié les règles de la propriété intellectuelle et autorisé des recherches de base dorénavant à être brevetées. On a incité les universités, c'est très net aux États-Unis, à prendre elles-mêmes des brevets et à se lancer dans la création de start-up. Les industriels ont colonisé nombre de laboratoires. Aujourd'hui, ils les subventionnent et guident facilement leurs recherches. Plus grave, toutefois. Nombre de compagnies organisent sciemment la désinformation et minent les savoirs qui leur déplaisent. Nous le savions pour les marchands de tabac et le pétrolier Exxon, celui qui vend l'essence du nom de Esso chez nous, depuis l'ouverture de leurs archives sur injonction judiciaire dans les dernières décennies. Nous l'avons appris hier, avant-hier très exactement, à propos du glyphosate de Monsanto, grâce à l'enquête que Le Monde a réalisée dans les papiers de la compagnie, eux aussi rendus publics par décision de justice. Et ces choses sont graves. Elles méritent qu'on s'y attarde longuement et qu'on en parle. Mmh. Citoyens, restez vigilants.
Merci beaucoup Dominique Pestre. Vous êtes historien des sciences, directeur d'études à l'EHESS et vous avez notamment dirigé l'histoire des sciences et des savoirs en trois volumes au Seuil.